Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un jour, saint Thomas d'Aquin, rendant visite à saint Bonaventure, lui demanda de quel livre il s'était le plus servi pour consigner dans ses ouvrages tant de beaux enseignements. Saint Bonaventure lui montra l'image de Jésus crucifié, toute ternie par les baisers qu'il lui avait donnés, en disant « Voilà le livre dont je reçois tout ce que j'écris. C'est lui qui m'a enseigné le peu que je sais. » La croix, en effet, est un livre ouvert qui nous enseigne la voie du salut, c'est-à-dire à éviter le péché, à aimer Jésus-Christ, à le servir fidèlement et mériter le ciel. Alors voyons voir d'abord le mal qu'est le péché. Pour comprendre ce mal, il faut remonter à nos premiers parents, Adam et Ève. Créés par Dieu par amour et destinés à la vision béatifique du ciel, ils étaient tout dépendants de Dieu et devaient se servir de leur liberté pour le glorifier, lui rendre grâce, lui obéir et le servir. Cette union de tout leur être en état de grâce avec Dieu, cette harmonie parfaite, exempte de toute souffrance et de mort, faisait leur bonheur, prélude du bonheur du ciel. Séduits par Lucifer, ils préférèrent expérimenter la désobéissance, le non-serviam du démon, et se défier de Dieu, leur Créateur, qui les avait pourtant avertis des conséquences s'ils venaient à manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. Ce serait la mort. Cet acte de révolte orgueilleuse, une fois consommé, passa à toute leur descendance, dont nous sommes. Depuis cet acte historique, tous les hommes, dit saint Paul, naissent avec ce signe de révolte qui fait de nous des enfants de colère, soumis à la malédiction divine. Le péché originel était suivi de la multitude des péchés personnels de tous les hommes, de toutes les abominations qui se sont commises depuis et qui se commettront jusqu'à la fin du monde. Cette somme d'outrages, de crimes, de blasphèmes, d'offenses envers Dieu sans nombre a été connue de Dieu de toute éternité. La miséricorde infinie de Dieu permit le péché originel avec toutes ses conséquences, qui sont un mal immense, en vue d'un plus grand bien. Ce plus grand bien, c'est l'incarnation, la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par sa passion et sa mort sur la croix va rendre à l'Auguste Trinité l'hommage qu'Adam lui avait refusé par sa désobéissance. La mort ignominieuse de Jésus, acceptée librement, est un acte d'adoration éclatant qui surpasse infiniment les actes d'adoration que constitue la mort de chaque homme. Oui, la mort, acceptée ou non, est un acte d'adoration, puisque la mort nous oblige à nous reconnaître créatures devant Dieu. Même ceux qui ne veulent pas s'en remettre à Dieu pour l'heure de leur mort, en choisissant eux-mêmes l'heure par l'euthanasie, rendent malgré eux un hommage forcé à Dieu en subissant la mort. Jésus a non seulement voulu payer la dette que les hommes ont contractée en ne voulant pas se soumettre à Dieu, mais puisqu'il est à la fois Dieu et homme, il a vu qu'il ne ferait jamais trop pour laver, réparer les offenses sans nombre de l'humanité. C'est pourquoi il décida de se charger de tous les péchés des hommes, pour les expier, par la somme de souffrances éloquentes que sont la passion et la mort sur la croix. Les récits de la passion, pendant cette semaine sainte, nous ont remis en mémoire ses souffrances. Trop facilement, on pourrait s'en émouvoir, comme les femmes de Jérusalem, pleurer sur Jésus et s'indigner contre ceux qui les ont infligés, les Juifs et les Romains. C'est déjà bien. Mais en contemplant l'Ecce Homo, quand Pilate le présente aux Juifs, dont les chairs ont été complètement déchirées par les fouets, la tête couronnée de longues épines, et sur la croix, les pieds et les mains percés par les clous. Rappelons-nous les paroles du prophète Isaïe. Il n'avait ni forme ni beauté pour attirer nos regards. Il était méprisé, le dernier des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance. Nous le regardions comme un lépreux frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il a été blessé à cause de nos iniquités, broyé à cause de nos crimes. Qui racontera ce qu'il a souffert? Le Verbe de Dieu s'est incarné pour pouvoir souffrir et mourir. Il le fit donc grandement en Dieu. Saint Thomas dit que les douleurs de la Passion furent les plus grandes de toutes celles que les hommes peuvent supporter dans la vie présente. Jésus voulut s'y livrer sans aucun adoucissement. Il aurait dû mourir après la flagellation, qui n'a pas été limitée à 40 coups, comme la loi juive l'ordonnait. De plus, ce n'était pas un fouet ordinaire. Le flagrum était garni de boules de plomb aux extrémités des lanières. Il a déchiré toutes les chairs de Jésus sur toute la surface du corps. L'historien juif Joseph rapporte que Jésus fut déchiré à tel point que ses côtes furent mises à nu. L'épuisement de Jésus était si grand qu'il tomba plusieurs fois sur le chemin du calvaire et que l'officier romain jugea prudent de réquisitionner un passant pour porter la croix de Jésus, de peur qu'ils ne viennent à mourir en chemin et ne puissent être crucifiés. Arrivé au calvaire, ils le crucifièrent à la troisième heure, dit saint Marc, c'est-à-dire environ 9 heures du matin. À la sixième heure, c'est-à-dire midi, il se fit des ténèbres sur toute la terre. Et c'est à la neuvième heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, que Jésus remit son âme à son Père. Notre Seigneur est donc resté 6 heures cloué à la croix, dans des souffrances atroces, sans une seconde de répit, épuisé par tout ce qu'il avait souffert depuis la veille. Ces mots terribles, ce sont nos péchés qui les ont infligés à notre doux Sauveur. Demandons à la Vierge Marie, qui a reçu son Fils sur ses genoux au pied de la croix, de graver dans notre cœur, dans notre mémoire, que c'est notre orgueil qui a humilié Jésus, notre sensualité qui l'a flagellé, notre amour de l'indépendance qui l'a cloué à la croix. Si nous comprenons cela, alors la méditation de la Passion de Jésus nous fera vraiment mourir au péché. La vie de la grâce que nous a méritée Jésus pourra alors se développer sans entrave dans nos âmes. Jésus-Christ, l'homme-Dieu, est le Maître qui dirige tous les événements de sa Passion. C'est lui-même qui s'est livré à ses ennemis quand il l'a voulu. Il est mort quand tout ce qui était dit de lui dans les Écritures a été accompli. Étant Dieu, il aurait pu nous racheter même sans verser une goutte de sang. Alors, pourquoi a-t-il voulu s'humilier ainsi, souffrir autant et mourir comme un maudit sur une croix? C'est pour manifester son amour pour nous. Jésus nous a enseigné qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Saint Bernard fait remarquer judicieusement après saint Paul que Jésus a fait plus, puisqu'il a donné sa vie pour nous, alors que nous étions encore pécheurs, donc rebelles. Nous étions ses ennemis. Pour comprendre la grandeur de l'amour de Jésus pour nous, revenons à la transfiguration sur le mont Tabor. Saint Luc rapporte que Moïse et Élie, parlant de la passion de Jésus, l'appelaient un excès. C'est avec raison, dit saint Bonaventure, que la passion de Jésus fut appelée un excès, puisque ce fut un excès de douleur, conséquence d'un excès d'amour. La loi de Dieu commande aux hommes d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Mais Jésus a aimé les hommes plus que lui-même, puisque pour eux, il a donné sa vie divine, plus précieuse que la vie de tous les hommes et des anges réunis. C'est pourquoi les païens considéraient la prédication de Jésus crucifié comme une folie. Effectivement, c'en est une. Car l'amour de charité n'est pas raisonnable. Son langage, comme son effet, est toujours l'excès. La mesure d'aimer, dit saint Bernard, c'est d'aimer sans mesure. En considérant les souffrances de la Passion, on pourrait penser qu'elles ont exprimé tout l'amour que Jésus nous portait. En effet, le coup de lance du soldat qui perça le cœur de Jésus après sa mort nous apprend qu'il a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Donc il ne pouvait faire plus. Au point de vue de la souffrance, c'est vrai, ce fut un excès, mais un excès limité. Alors que son amour était un excès infini. C'est ce qu'il nous révèle en disant ceci à sainte Catherine de Sienne. Mon désir concernant la race humaine était infini, et l'acte présent de la souffrance et des tourments était fini. Par cette souffrance, je ne pouvais donc vous manifester combien je vous aimais, puisque mon amour était infini. Ce qui prouve que je vous aime infiniment, c'est ce baptême de sang uni au feu de ma charité, car c'est par amour que ce sang fut répandu. Ce bain de sang répandu par Jésus n'a pas seulement payé la dette et réparé l'offense, il nous a donné la vie divine. De son côté ouvert par la lance est née l'Église, qui a pour mission de répandre sur le monde entier jusqu'à la fin des temps les grâces de la rédemption. Cette grâce, cette vie divine communiquée par l'Église aux âmes repentantes, se fait par les sacrements, qui donnent, restaurent, augmentent, perfectionnent cette vie communiquée. Notre Seigneur Jésus-Christ, sur la croix, priait par les paroles du psaume 21e, pour que son sacrifice soit agréé de son Père. Dans la lecture de l'Évangile de la Passion, nous avons seulement le premier verset du psaume qui est « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Mais notre Seigneur a prié tout le psaume. Et voici ce qu'il disait. « Le Seigneur n'a pas détourné de moi son visage, mais il m'a exaucé lorsque je criais vers lui. Tu seras, ô mon Dieu, dans la grande assemblée, l'objet de mes louanges. » Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Il parle là de la Sainte Eucharistie. Et ceux qui cherchent le Seigneur le loueront et leurs cœurs vivront éternellement. La terre, dans toute son étendue, se souviendra des bontés du Très-Haut et se convertira à lui. Et toutes les familles des nations l'adoreront en sa personne. On a là tout le développement de la Sainte Église dans le monde entier. Et c'est sur la croix que notre Seigneur a fait cette prière. Notre Seigneur Jésus-Christ, par son sacrifice sanglant et sa prière, a obtenu la naissance d'un peuple saint qui chantera avec lui éternellement à la fin du monde, les miséricordes de Dieu. Son consummatum est sur la croix est un cri de victoire qui a terrassé le démon, détruit le péché, vaincu la mort, accomplissant cette parole du prophète Osée, « Ô mort, je serai ta victoire. » Ô mort, pardon, je serai ta mort. Il a donné naissance ainsi à une humanité régénérée qui formera le Christ total au ciel avec pour tête notre Seigneur, le Fils de Dieu fait homme. Cette humanité régénérée et glorieuse donnera plus de gloire à Dieu que n'en aurait donné celle qui serait née sans la faute originelle. C'est pourquoi la vigile pascale, nous chanterons demain « Heureuse faute qui nous a mérité d'avoir un tel Rédempteur ». Notre Seigneur nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix pour que nous fassions partie de cette humanité régénérée. Le chemin était tracé par lui. Il fallait, dit-il aux disciples d'Emmaüs le lundi de Pâques, que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts, et qu'il entra de cette façon dans la gloire. Pour entrer dans la gloire, il n'y a pas d'autre itinéraire que la voie royale de la Sainte Croix. Nous l'avons chanté pendant le chemin de croix cet après-midi avec Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La croix est nécessaire. Il faut toujours souffrir, d'une manière ou d'une autre. Ou monter au calvaire, ou pour jamais périr. Alors il vaut mieux monter au calvaire. Il ne faut pas craindre la rudesse de la croix. C'est ça qui nous effraie. La croix cache en effet, sous son écorce rugueuse, des dons sans nombre. Le salut, la vie divine, la protection contre les ennemis, l'énergie spirituelle, l'allégresse de l'âme, la perfection des vertus, le couronnement de la sainteté. Si nous voulons que nos croix soient plus faciles à porter, suivons le conseil de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Soyons de fidèles serviteurs de Marie. Cette bonne mère, dit-il, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie toutes ses croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'il les avale joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Au cours de la cérémonie, tout à l'heure, nous allons adorer la croix et venir embrasser Jésus crucifié. Demandons à la Vierge Marie cette grâce de ne pas le baiser seulement du bout des lèvres, mais de l'embrasser avec tout notre cœur, c'est-à-dire de l'aimer par-dessus toutes choses et de ne jamais refuser les croix qu'il nous présentera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.